Vous allez bien, mes frères et sœurs? Vous allez vraiment bien? C'est bien, quelle grâce, quelle grâce. Alors, je voudrais lire avec vous un texte qu'on a abordé. Déjà, on a fait un peu l'introduction mardi à l'étude biblique, qui est après la réunion de prière. Nous avons pris ce verset. Jésus, avant de remonter au ciel, Matthieu chapitre 28, a donné des ordres. Je ne sais pas si vous aimez les ordres. Vous aimez les ordres? Ça vient de Dieu, quand même. Tous les ordres qui viennent de Dieu, vous les aimez? Vous le saurez à la fin. Matthieu chapitre 28, verset 18. C'est les dernières paroles de Jésus sur la terre avant de remonter au ciel, en tous les cas, comme Matthieu nous le présente. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et la promesse que nous aimons par-dessus tout. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Quel est l'ordre que Dieu donne aux apôtres? Faites de toutes les nations des disciples. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas faire des catholiques, des protestants ou des évangéliques, on doit faire des disciples. Vous, nous disons, oui, je suis évangélique, mais la question qu'on devrait vraiment se poser, est-ce que nous sommes des disciples? Le deuxième texte, on va le lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Nous avons tout un enseignement sur ce qu'est la vie de disciple. Luc chapitre 14, verset 25. Évangile de Luc, chapitre 14, verset 25. Il y a tout un enseignement sur ce qu'est un disciple. Et je crois que c'est bien de reprendre cette année avec des prédications encourageantes, mais également avec de l'enseignement qui nous permette de comprendre ce que c'est un chrétien. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ?» Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. On va quand même faire une autre lecture dans Matthieu chapitre 16, parce que je pense que c'est complémentaire, c'est important. Matthieu chapitre 16, il y a un contexte que j'essaierai de développer, quoique je n'aurai pas le temps, mais Pierre avait été vraiment béni, il avait été inspiré, et je pense qu'il devait croire que tout ce qu'il allait dire allait l'être. Et Matthieu chapitre 16, verset 21... Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et je voudrais remarquer que chaque fois où Jésus parle du renoncement, il parle du salut. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se gargarise de la dénomination dans laquelle il se trouve. Un chrétien, c'est un disciple. L'ordre de Jésus est formel, faites des disciples. Et l'œuvre de Dieu ne pourra se faire que si nous, les chrétiens, nous sommes de véritables disciples. Et ça s'apprend. Faites des disciples, apprenez-leur, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Des hommes qui vont être bénis par Dieu, à l'écoute de Dieu, qui vont entendre ce que c'est la prédication de la croix, qui vont entendre vraiment l'enseignement de la parole de Dieu, c'est incontournable, être transformés. Il y a des chrétiens qui restent des chrétiens de nom, tout simplement parce qu'ils ne sont jamais devenus des disciples. Ce qui fait que les gens sont écœurés quand ils voient certaines personnes qui se disent chrétiens, parce qu'en vérité, ils ne sont pas devenus des disciples. Un disciple est une bénédiction pour son prochain. Quelqu'un qui devient un véritable chrétien, ça se voit. Si quelqu'un vous dit un jour, ah, t'es chrétien, mais ça se voit pas, mais quand même que ça vous fasse réfléchir. Parce que je crois qu'un chrétien, ça se voit, quelle que soit votre personnalité, si vous êtes un chrétien, ça se voit. Un chrétien, quand il devient un disciple, eh bien, il reçoit les choses de Dieu, entre autres, par exemple, la paix, et il peut procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Tiens, c'est une question que l'on peut se poser. Dans mes entretiens, dans ma maison, est-ce que je procure la paix? Est-ce que c'est important ça? Ah oui, un chrétien, il procure la paix. Il communique la grâce. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que je communique une parole de grâce? Ou est-ce que je suis en train de fatiguer tous ceux que je côtoie? Donc, on pourrait parler des fruits, mais les fruits, ils doivent y être. Un homme qui ne porte pas de fruits est quand même inquiétant et doit être un arbre qui ne porte pas de fruits. On va le tailler, on va le traiter, on va traiter même les racines, s'il le faut. On va même traiter la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'on est capable de faire pour qu'un arbre puisse porter du fruit. Donc Jésus est catégorique, avant de remonter au ciel, il a dit « faites des disciples ». Donc ma responsabilité, la responsabilité des pasteurs, c'est de faire des croyants de véritables disciples. Non pas des chrétiens de nom qui je ne sais pas quoi, sont contents d'aller à l'église, non, de véritables disciples. Alors, c'est la question que je nous pose ce matin, à vous et à moi. Est-ce que nous sommes des chrétiens de nom ou est-ce que nous sommes de véritables disciples? Une personne qui devient un véritable disciple, c'est quelqu'un qui va écouter la parole. Hier, je lisais Matthieu, on va le lire ce verset, parce que je l'ai vraiment eu à cœur. Dans Jean, au chapitre 8, il y a un verset qui résume bien la prédication. Je ne pensais pas le prendre, je ne l'ai pas mis sur mes notes, mais il est là sur mon cœur et je ne veux pas le négliger. Vous lirez le chapitre 8 en entier, c'est un chapitre très 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 intéressant. Et les pharisiens, qui avaient la religion la plus pointue qui existait à l'époque, se mettent en contradiction avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va être obligé de leur dire des choses terribles. Vous êtes les fils du diable, etc. Jésus n'a pas dit ça pour leur faire du mal. Jésus leur a dit ça vraiment pour les éclairer. Et Jésus, au verset 47, dit quelque chose qui est facile à comprendre. Enfin, peut-être pour un disciple, en tous les cas. Jean 8, 47, « Celui qui est de Dieu... » Et vous y êtes, c'est important que vous lisiez ce verset avec moi, Jean 8, 47. « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas, il parlait des religieux, très religieux. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et bien souvent on se pose la question, mais pourquoi tel chrétien écoute, tel chrétien n'écoute pas? Et bien parce qu'il y a des chrétiens de nom qui ne font qu'à leur guise, et il y a des disciples qui disent, voilà, Dieu l'a dit, c'est important, je le fais. Il y a des chrétiens avec qui c'est même pas la peine de discuter, ils vont justifier le péché sous toutes ses formes. Pourquoi? Eh bien parce que, comme Jésus l'a dit, ceux qui n'écoutent pas, ils ne sont pas de Dieu, c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Donc Jésus parle que dès le départ, il dit à tous, on l'a vu mardi, Jésus dit à tous, il ne dit pas ça à une élite dans l'église qui est chargée d'enseigner, non. Il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors, quel était le contexte? Vous l'avez lu avec moi, l'apôtre Pierre a été instruit par le Seigneur et il va dire à Jésus, juste avant, « Mais tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui dire, « Mais ce n'est pas la chair et le sang, donc ce n'est pas les hommes qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre devait avoir des moments de communion avec le Seigneur et il lui avait révélé que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Alors, vous pensez donc, devant tout le monde, il a reçu cet éloge, et voilà que quelques minutes après, Jésus commence à expliquer qu'il va devoir souffrir, qu'il va porter la croix, et qu'il va mourir, etc. Et lui, pensant peut-être qu'il était toujours inspiré, comme quoi on peut être inspiré un moment et ne pas l'être 5 minutes après, il va dire, mais non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. sûr que peut-être que tout ce qu'il allait dire à partir de maintenant était inspiré. Et Dieu va lui dire, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines. Et c'est là que Jésus embraye et va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est important de comprendre cette parole, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris à ce qu'était le renoncement. On va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même pour vous? Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un, ça veut dire il faut renoncer au matériel, il te faut tout abandonner, il te faut te retrouver juste avec une veste sur le dos, et c'est ça, et là tu auras renoncé. Il y en a plein qui l'ont fait, il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a plein qui ont renoncé à tout ce qu'ils possédaient pour se retrouver dans des couvents, dans des monastères, dans des cloîtres. Je peux vous dire que ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils n'ont pas renoncé à leurs idoles, ils n'ont pas renoncé à plein de choses à laquelle Dieu voulait qu'ils renoncent. Parce que ce n'est pas une question de matériel, on va le voir, c'est une question plus profonde. Quelle forme de renoncement Jésus indique-t-il dans ce texte? Eh bien, c'est notre façon de penser. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Je vous rappelle qu'un quart d'heure avant, il avait véritablement été inspiré. C'est pour ça que nous devons nous poser la question, mais quelle est ma façon de penser? Ce n'est pas parce que tout d'un coup on va penser quelque chose de spirituel qu'un quart d'heure après ça va toujours l'être et que ça va être et que ça va avoir l'approbation de Dieu. Nos pensées sont-elles conformes à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes capable d'analyser vos pensées? Est-ce que normalement c'est possible de savoir si quelque chose est biblique ou pas biblique? Ben oui. Je pense. Je pense, tiens, je suis chrétien, mais je peux. Je pense au salut. Que Jésus est mort sur la croix pour moi, tout ça, ça tient debout. Cinq minutes après, je pense, mais après tout, je fais ce que je veux. Si je veux me marier avec une fille inconvertie, je me marie avec une fille inconvertie. Personne ne peut m'empêcher. C'est ma pensée, ça. Est-ce que c'est biblique? Donc, normalement, quand vous pensez quelque chose, vous devez savoir si c'est ou c'est pas biblique. Un disciple va être très scrupuleux et va faire attention. Quelqu'un qui n'est pas disciple, dit, écoutez, moi, je n'ai pas de leçon à recevoir, je fais ce que je veux. Mais faites ce que vous voulez. Mais si vous n'allez pas au ciel, parce que quand même, c'est notre devoir de veiller sur vos âmes. Oui ou non? Est-ce que c'est écrit dans Hébreux chapitre 13 que les pasteurs veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte? Est-ce que c'est écrit? Oui. Et il est même écrit au-dessus, ayez pour eux de la déférence. Voyez? Donc, il faut bien respecter les gens qui vous enseignent. Je dis ça pour le dire, mais je crois que dans une église, c'est une bénédiction, et c'est ce qui se passe ici, quand on se respecte et qu'on a du respect les uns pour les autres. Mais le respect ne doit pas quand même occulter le fait que nous devons faire très attention à ce que nous entendons. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Il y a des choses auxquelles il faut y renoncer. Si vous avez toujours des pensées négatives, des pensées amères, des pensées de regret, des pensées de ceci, des pensées de cela, ne vous étonnez pas si vous perdez la paix. Parce que Jésus dit que pour avoir la paix, il faut se décharger sur lui de tous nos soucis. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Car je crois qu'il faut que nos cœurs soient gardés, mais également nos pensées soient également gardées. Donc, il faut tenir tout le temps compte, M. Olé l'enseigne, le répète à tous ses étudiants, il faut continuellement, pour comprendre un texte, tenir compte du contexte. Le deuxième texte où Jésus parle de devenir un disciple, quel est le contexte? Vous l'avez lu avec moi si vous avez toujours votre Bible ouverte dans Luc au chapitre 14, quand de grandes foules suivaient Jésus, de qui Jésus va-t-il parler? De la famille. Dans le contexte, c'est la famille. Le premier texte, ce sont les pensées de Pierre, où Pierre a des pensées qui ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. Le deuxième contexte où Jésus parle du renoncement, c'est la famille. Alors c'est sûr que ça peut choquer beaucoup de gens. Si quelqu'un vient à moi et ne préfère pas son père, sa mère, ses enfants, son frère et sa sœur, ne peut pas être mon disciple. Bon, si l'on veut être un disciple, il y a des priorités. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont jamais devenus des disciples. Parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que Dieu impose qu'il y ait des priorités. Il y a des priorités. Et il faut savoir quelles sont les priorités. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes capable ce matin? Peut-être que vous n'êtes pas capable parce que je ne l'ai pas bien enseigné. Mais quand même, nous devrions être capables à la lecture de ce texte de dire, mais oui, j'ai compris, il y a des priorités. Parce que vous savez, quand le sentimental, quand l'humain prend le dessus sur la spiritualité, les choses ne vont pas bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me préférait à son père, dans la version seconde, il est dit s'il ne hait. Jésus a tellement voulu mettre en opposition l'amour qu'on doit avoir pour lui, cet amour profond qu'on doit avoir pour lui, et l'amour qu'on doit avoir pour ses parents, qui doit être intense, mais pour qu'on comprenne bien, c'est une figure de style, pour qu'on comprenne bien, il le dit s'il ne hait pas son père ou sa mère. Tout le monde comprend bien que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de haïr ses parents. Au contraire, est-ce qu'il faut aimer ses parents? Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le béaba, un chrétien. Et si vous avez encore vos parents, vous devez les honorer. Vous êtes d'accord? Même s'ils ne sont pas chrétiens. Ah, mon père, lui, n'est pas chrétien, c'est un païen, c'est un pauvre type, moi. Non, c'est pas écrit comme ça. On l'entend ça. Vous devez honorer vos parents. Je comprends pourquoi des chrétiens ne sont jamais devenus des disciples. Ils prennent ce verset de manière superficielle. Vous avez vos parents, et même s'ils ne sont pas corrects, vous devez les honorer. C'est important. Est-ce qu'il faut aimer son mari? Est-ce qu'il faut aimer sa femme? Quand je vois certains chrétiens, je vous avoue que ça me fait quand même de la peine. Mais quand même, est-ce qu'un mari... Comment doit aimer un mari sa femme? Non mais franchement, moi quand je lis ce verset, je suis interpellé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les efforts que nous, les maris, nous devons faire pour être en bénédiction à nos épouses. C'est écrit. Vous avez vu comment Jésus a aimé l'Église? Comment il aime l'Église? Bien sûr que personne n'y arrivera. Mais enfin, quand même, ça peut nous permettre de faire des efforts et de dire, oui, je vais m'appliquer à aimer ma femme, à l'aider. Parlez-en avec elle. Il y a qu'elle qui peut vous dire, et mes sœurs, dites à votre mari, n'attendez pas qu'il devine. Comme une sœur un jour m'a dit, moi, j'aurais aimé qu'il devine. J'ai dit, je suis désolé, dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de devin, Dieu n'en veut pas de devin, il faut le dire. Non, mais vous savez, il y a des gens au nom du spirituel, ils en perdent le bon sens. Il faut aimer sa femme, il faut aimer son mari. Ce sont des choses impeccables dans l'Église. Quand il est parlé d'aimer sa femme et d'aimer son mari, la Bible dit, afin que l'Église soit prête. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mes frères et sœurs, alors il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants, il faut aimer son conjoint, il faut aimer ses petits-enfants, etc. Parce que celui qui n'a pas soin des siens, la prophétie a été donnée tout à l'heure. Ça m'est souvent arrivé de ne pas donner une prophétie parce que dans la prédication, j'allais en parler. Mais je ne veux pas tomber dans ce piège. Après tout, si Dieu me donne une prophétie, je veux la donner. Même si elle corrobore exactement à la prédication. Parce que s'il y a quelqu'un dans l'Église qui n'aime pas son conjoint, et qui ne prend pas soin de ses enfants. Ne vous attendez pas à être béni parce que vous avez une foi qui fait que vous croyez que Dieu vous entend. Oui, il vous entend peut-être, mais la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Et alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Jésus dit, il faut qu'il me préfère à son père, à sa mère, mais moi tout ça c'est réglé, je préfère le Seigneur à mes parents, je préfère le Seigneur à mon épouse. Oui, mais ça ne sous-entend pas qu'il ne faut pas avoir de l'amour profond pour son conjoint et pour ses enfants. Et ce qu'on comprend bien, quelqu'un qui a un petit peu de bon sens, si vous mettez ces deux textes ensemble, vous faites réaliser qu'il y a des priorités. Je dois aimer ma femme, je dois aimer mes enfants, je dois aimer mes amis, etc. etc. Je dois même aimer mes ennemis, mais je dois mettre Dieu en premier. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont chuté, parce que Dieu n'est pas en premier. Il y en a beaucoup, c'est leur famille en premier. Beaucoup de chrétiens, ah non, moi c'est ma famille, ah moi l'évangélisation, ah non, nous on va se balader en famille. Est-ce que c'est bien d'aller se balader en famille? Moi je pense que c'est très 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 bien. Mais je crois que chacun doit demander au Seigneur ce qu'il doit faire. Si Dieu est en premier, les choses se mettent en place, clac, 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 tout mécaniquement. Et mes frères et sœurs, Jésus s'arrête, il y avait de grandes foules qui les suivaient, comme je l'ai dit mardi, c'est sûr que Jésus aurait pu dire, oh là, j'ai le succès, je suis sûr que ce n'est pas le style. Mais il s'arrête et il explique que de grandes foules qui suivent Jésus, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'on ait compris que dans la vie spirituelle, il y a des priorités. Et je nous pose la question, quelle est notre priorité dans notre vie? D'un côté, il faut absolument que je sois soucieux d'aimer ma famille, mais d'un autre, il ne faut pas que ma famille prenne le dessus sur Dieu. De toute façon, plus j'aimerai ma famille, plus j'aimerai Dieu, plus j'aimerai ma famille. C'est sûr. Et si Dieu demande ces choses, croyez-moi, c'est plein de bon sens. Donc le renoncement, ce n'est pas une question de matériel. que ce que les gens sont capables de faire. Parfois, ils sont capables de renoncer à tel truc, telle chose matérielle, mais croyez-moi, au niveau des pensées, ça ne va pas suivre. Je parlais tout à l'heure de ceux qui s'enferment dans des couvents ou dans des cloîtres, et croyez-moi, ils n'ont pas renoncé à l'idolâtrie. Et la Bible dit que les idolâtres, ils ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes et qu'ils ne sauveront pas leur âme. Si vous avez des doutes par rapport à ce que je suis en train de vous dire, méditez Ésaïe 44 et vous verrez ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Dieu d'abord, pas moi d'abord. Vous vous rappelez dans les évangiles, cet homme qui veut suivre Jésus et puis qui dit « Ah, permets-moi d'abord, moi d'abord, d'aller ensevelir mon père ». Alors est-ce qu'on a le droit d'aller ensevelir ses parents? Mais là c'est autre chose, ça veut dire quelqu'un qui dit à mon père il est malade, il est âgé, alors si ça prend des années, eh bien voilà, je vais m'occuper de lui pendant des années. Et Jésus dit non. Parce que il y a des choses, bien sûr qu'il faut prendre soin de vos parents, mais si Dieu vous appelle à le servir, vous n'allez pas continuellement, parce qu'il y a des besoins, il y en a toujours des besoins. Permets-moi d'abord, et ça c'est le gros problème aujourd'hui, moi d'abord. Moi. Après tout, je bosse toute la semaine, alors moi, d'abord. Et ce n'est pas du tout ça. Et mes frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, ma responsabilité, c'est de faire de vous des disciples. Des hommes et des femmes qui vont comprendre cette affaire de priorité dans la famille, cette affaire de pensée. Et c'est pour cela qu'il y a plein de chrétiens qui ne marchent pas. Regardez le potier. Quelqu'un a parlé du potier ce matin, dans sa prière, ou je crois pour rapport à un chant. Regardez un potier, quand il travaille la masse d'argile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier travailler. Et discutez avec un potier. Mais il vous explique qu'il va enlever toutes les pierres, tout ce qui peut se trouver dans la pâte. D'abord, il la prépare, la pâte, il regarde s'il n'y a pas des petits cailloux. Et même quand il forme le vase, il enlève les tout petits cailloux. On peut dire, oh, le tout petit, ce n'est pas grave. Et il sait que c'est grave, parce que s'il n'enlève pas les petits cailloux, quand on va passer le vase au four à très haute température, s'il y a une petite pierre, ça va provoquer une cassure. Tant que le vase n'est pas fait, non. Mais dès que le vase est au four, ça va provoquer une cassure. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais si vous ne renoncez pas à certaines choses, vous ne pouvez pas devenir des disciples. Pourquoi il y a plein de chrétiens qui sont constamment, je parlais de l'idolâtrie, mais j'ai pris le Ésaïe 44, il y a plein de textes, mais c'est pour que vous regardiez vraiment les conséquences dramatiques de l'idolâtrie. On ne peut pas sauver son âme quand on est idolâtre, parce qu'on ne peut pas rentrer en soi-même. C'est très très bien expliqué. Mes frères et sœurs, il y a des choses, au début ça peut aller, c'est comme quand on monte une maison, on peut monter une maison sur le sable. Est-ce qu'on peut monter une maison sur le sable? Mais bien sûr qu'on peut la monter, mais il n'y aura pas toujours que du beau temps. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Il faut expliquer que c'est dès le départ. Et renoncer à tout, je le répète, ça n'a rien à voir avec le problème matériel. À moins que le matériel soit un véritable obstacle à votre vie spirituelle. Jésus a dit à des hommes riches, vends ce que tu possèdes, parce que la richesse était véritablement un obstacle. Zachée, est-ce qu'il était riche? Oui. Est-ce que Jésus lui a demandé de se séparer de sa fortune? Ben non. Pourquoi? Parce que la fortune n'était pas un obstacle à sa vie. Et si on ne veut pas renoncer dès le départ à certaines choses, quand viendra l'épreuve, eh bien ça va être une occasion de chute. Moi, je me fais du souci quand je parle avec certains chrétiens. Et c'est pour ça que j'ai pris le texte de Jean, chapitre 8, parce qu'on voit au fur et à mesure qu'on connaît la Bible, que dans la façon de penser, la façon de raisonner, la façon de se comporter, il y a des gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Regardez les pharisiens à qui Jésus va devoir leur dire « Vous avez pour père le diable ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a que Jésus qui pouvait dire quelque chose de pareil avec autant de lucidité. Parce que si on ne sait pas renoncer à ce que Dieu nous demande, ça va provoquer la chute. Et c'est à chacun de nous de savoir. Dieu peut le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui nous éclairera à chacun pour savoir ce qui ne va pas. Vous connaissez ce que dit la Bible? Ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que Satan exploite? Vous pouvez me répondre. Hein. Qu'est-ce qu'il exploite? Les choses qui n'ont pas été livrées à la croix. Il le sait. On va prendre un exemple, le meilleur des exemples, Judas. Par où l'ennemi s'est-il infiltré? L'argent. Judas, vous êtes d'accord avec moi, c'était un disciple, c'était un pasteur, c'était un apôtre. Est-ce que quelqu'un, vous êtes d'accord? Oui, bon, c'était un apôtre, un disciple. Et il avait conservé dans son cœur quelque chose à laquelle il n'a pas renoncé. c'était l'amour de l'argent. Et pourtant, c'était un pasteur, c'était un apôtre. Il avait commencé à bâtir la tour, parce que quand vous regardez le cursus de Judas, laissez-moi vous dire que ça a été un véritable pasteur. Donc, il a vraiment commencé à bâtir et il n'a pas pu la terminer. Et si le Seigneur nous demande de calculer la dépense, c'est qu'il faut réfléchir. Ceux qui vont prendre le baptême, parce que là aussi, il y a des gens qui me disent « Ah bon, on fait des instructions au baptême ?» Moi, quand j'ai pris le baptême, je n'ai pas eu d'instructions. Moi, je pense que c'est le devoir des pasteurs d'instruire les gens pour qu'ils comprennent ce qu'est vraiment la repentance, la conversion, la conviction de péché, toutes ces choses qui nous permettent vraiment de commencer. Si Jésus parle d'une dépense, c'est qu'il y a un prix à payer. Même si tout est gratuit, les efforts correspondent à un prix à payer. Alors, quel est le montant de la dépense? Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, qu'on lui donne notre vie entière. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner votre vie à 100%? Pas à 120, comme certains l'ont dit. Ça ne sert à rien. 100, ça suffit. Et là aussi, voyez les gens qui sont plus que spirituels. C'est un principe. Il faut le comprendre dès le départ. Vous voulez aller au ciel? Il faut qu'on soit des disciples. Nous voulons aller jusqu'au bout, il faut devenir des disciples. Vous savez ce que Paul a dit à des chrétiens? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'amour de quelque chose, parce qu'il y a des choses auxquelles nous étions attachés avant notre conversion, qui étaient poignantes. Oui, je vais vous le dire, ça va vous faire rire, mais ça ne fait rien. Moi, quand j'étais chrétien, vous allez pas le croire, mais c'est vrai. Quand j'étais pas chrétien, ma passion, c'était la danse. Oui, ça a changé, ça c'est clair. Mais c'était ma passion. C'était une passion. Et je sais que j'ai vraiment dû y renoncer. Parce que c'est quelque chose qui m'aurait empêché d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a des choses qui ont de l'importance dans notre vie. Pour M. Olé, c'était pas la danse, non? Non, c'était pas la danse. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas des passions? Vous n'aviez pas des passions avant de vous convertir? Et il y a des gens qui ne renoncent pas. Moi, je vois des jeunes, ils sont capables de passer 5-6 heures sur leur PlayStation. Moi, je leur dis. Moi, est-ce qu'il n'y a certainement pas de mal à y jouer? Moi, je n'ai jamais joué, mais je vous dis, il n'y a pas de mal à y jouer un quart d'heure, je pense. Mais quand ces choses-là prennent la place, et surtout de l'amour, beaucoup d'amour dans votre cœur, à un moment donné, elles vous feront chuter. Vous pouvez dire, oh non, monsieur Gault, vous êtes excessif. C'est du légalisme? Demandez au Seigneur Jésus si c'est du légalisme. Quand quelque chose prend trop de place, ça prend du pouvoir en nous. Et au bout d'un moment, ça finit par nous détourner du Seigneur. Si le Seigneur nous demande de renoncer à certaines choses, Pierre, tout Pierre qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, devait renoncer à sa façon de penser. Parce que sa façon de penser l'éloignait vraiment du Seigneur. Et c'est à chacun de nous. Ce n'est pas à moi de voir chacun, et voilà, renonce à ci, renonce à ça. C'est à chacun de vous, à chacun de nous, de savoir à quoi il faut renoncer. Nous devons savoir chacun ce qui peut nous asservir. Je discutais avec un monsieur dernièrement qui me disait, est-ce que vous buvez de l'alcool? Ben, je dis oui, de temps en temps je bois un ou deux verres de vin par repas. Oui, oui, ça m'arrive. Ah bon, mais je peux boire moi. J'ai appris bien sûr après dans la conversation qu'il était sous tous les jours. Tous les jours, moi ça ne m'a pas fait rire parce que cet homme est dans une souffrance pas possible. Tous les jours, c'est un gars qui se dit chrétien et je lui dis écoutez, vous croyez en Dieu, mais vous devez renoncer à l'ivrognerie parce que ça va vous éloigner de Dieu. Parce que l'ivrognerie entraîne notre péché, après il en devient grossier, cette grossièreté l'amène à avoir de la haine contre les gens, etc. Vous voyez, ça, un péché ne va pas tout seul. C'est à chacun de nous de savoir ce qui peut nous en servir. Et franchement, soyons honnêtes, on est dans la maison du Seigneur, on a fait le point. On doit quand même chacun être capable de s'occuper de sa paille. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose de sérieux, nous sommes devant Dieu, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas là juste, voilà, le culte va finir dans 3 minutes, c'est bon, j'ai pris ma leçon. Non! Nous devons dire, mais est-ce que je suis un véritable disciple? Est-ce que dans des moments de communion, je laisse le Saint-Esprit m'éclairer? Voyez tout à l'heure, les prophéties, la dernière prophétie, il y a quelqu'un que Dieu appelle à être diacre, évêque, ancien. Et c'est clair que ça va passer par du renoncement. Est-ce que vous allez le faire? Ça s'adresse à un monsieur qui a entendu cet après-midi ce matin une parole venant de Dieu. Je suis convaincu que ça vient de Dieu. Ça va vous coûter, peut-être. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui regrette d'avoir renoncé à ce que Dieu lui demandait? Est-ce que l'apôtre Paul était heureux? Est-ce qu'il était malheureux? Est-ce qu'il se traînait la sinistrose de toute la vie parce qu'il avait répondu au Seigneur? Vous connaissez quelqu'un qui, ayant porté la croix, qui ayant obéi à Dieu, soit triste? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, ayant obéi à Dieu, soit triste? Moi, je connais personne qui, obéissant à Dieu, soit triste. Par contre, je connais beaucoup de chrétiens qui sont tristes parce que, justement, ils veulent négocier et ils sont toujours en train de négocier avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à ses hommes, écoutez, celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas la peine de perdre du temps avec des discussions inutiles. Quelqu'un qui lit la Bible, il sait ce qu'il voudra, il sait ce qu'il a à faire. Renoncer, c'est un mot très fort, c'est un mot qui indique renier, renoncer, c'est refuser. Et l'inverse, et là je l'ai regardé, l'inverse de renoncer à soi-même, c'est avoir pitié de soi-même. Voilà. Alors, ne pas renoncer, ça sera toujours négatif. Alors, ça je le garde pour moi, ça c'est pour moi. Si Dieu vous demande de vous en séparer, débarrassez-vous-en. Parce que ce que vous ne voulez pas perdre, c'est ce qui vous perdra. C'est pas plus compliqué. Et Judas n'a pas voulu renoncer à l'amour de l'argent. Jésus ne l'a pas oppressé. Jésus ne lui a pas dit attention, attention. Il le savait très bien. Il l'a laissé. Et vous avez vu comment le diable s'est emparé de ce garçon. Qui avait certainement le meilleur pasteur qui ait jamais existé. Et c'est pas une question de pasteur. On a tous la même Bible, on a tous le même Seigneur, et on doit tous être sérieux quand on fait son culte personnel et dire Seigneur, montre-moi. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les fois où Jésus parle du renoncement, toutes les fois, il parle du salut. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alors mes frères et sœurs, soyons vrais. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans nouvelle naissance. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu sans nouvelle naissance? C'est une question qui vient de plus en plus. Et beaucoup de gens sont rentrés dans le royaume de Dieu sans passer par la nouvelle naissance, sans passer par la repentance, sans passer par la conversion. Et des églises entières sont noyées là-dedans. Je ne sais pas si vous avez lu cette semaine. Vous savez, sur Google Actualité, des fois, il y a des informations. Et il y avait une information, écoutez bien, c'est blasphématoire. Au Canada, une église apostolique. Si vous regardez la confession des foi de l'Église apostolique, elle a la même confession de foi que nous. À un micro-truc près, ils ont la même confession de foi que nous. Et une église, vous savez ce qu'elle a mis devant son église cette semaine? Le panneau qu'elle a affiché? Mais écoutez bien, mais ça vous montre comment les gens ne sont pas convertis. Jésus a eu deux papas et il s'en est très bien sorti. Vous avez compris? Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est un blasphème. Dans une église apostolique, je le répète, qui a la même confession de foi que nous. Regardez où on en est arrivé dans les églises où on n'a pas fait des chrétiens, des disciples. Parce que moi je peux vous dire que c'est blasphématoire cette affaire. C'est grave ce qui a été dit. Vous pouvez le regarder, Google Actualité, vous tapez dans la religion, vous allez voir. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées. C'est pour ça que Jésus dit, mais celui qui ne calcule pas la dépense, la tour, elle finira par s'écrouler. Et il y a des églises entières qui s'écroulent. Et le problème, c'est qu'on écroule des gens qui cherchent Dieu. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que dans nos réunions de prière, mardi, on peut prier pour le local dont nous avons besoin, mais je peux vous assurer qu'il faut prier pour que la parole de Dieu soit prêchée dans toute la vérité, dans les églises. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens et dire, voilà, ils ont besoin d'entendre ça, alors il ne faut pas en parler. Ah, il y a des homosexuels qui sont venus dans l'église, moi j'aime les homosexuels. Ça m'est arrivé de discuter avec, mais on ne peut pas supporter l'homosexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est hors de question. Et les homosexuels n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et même s'il faut se décarcasser pour les aider, s'il faut tout faire pour les amener à la croix, on le fera, mais il faut leur dire la vérité. Vous avez vu où on en arrive à ce genre de blasphème que des gens qui commencent à chercher Dieu vont dire, ah bon, vous tapez confession de foi à l'église apostolique, vous allez dire, mais ça tient debout. Et bien, je peux vous dire que le fruit, c'est autre chose. Même si c'est peut-être isolé à une église, ça vous montre qu'il y a des chrétiens qui sont toujours en train de négocier la parole de Dieu. Si vous faites partie de ces gens, et moi j'en vois, ici il y en a eu, bien sûr qu'ils ne restent pas, bien sûr qu'ils ne restent pas. Et il y a monsieur un jour qui m'a dit à la sortie, monsieur Gault, vous ne devriez pas prêcher comme ça, parce qu'il y a des gens qui partiront. J'ai dit, mais moi je ne prêche pas pour que les gens partent, je ne prêche pas pour que les gens restent. Je pense qu'on prêche pour faire des disciples. Alléluia. Et que dans notre assemblée, nous voulons honorer le Seigneur. On est 400, qu'on soit 350 ou 450, le problème, il n'est pas dans le nombre. Le problème, il est dans le fait d'honorer la parole de Dieu. Et nous voulons faire des disciples. Ce n'est pas une question d'opinion, cette affaire de renoncement. Ce n'est pas une question d'opinion, parce que alors, ça aussi, on est fort pour ça. Ce n'est pas une question d'idée, c'est une question de salut. Jésus ramène cette affaire au salut. Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens, oui, mais vous savez, est-ce qu'on ne peut pas être sauvé, même si on continue à prier les morts, c'est pas grave. Eh bien, c'est une abomination. C'est le début du spiritisme. Le Seigneur est catégorique. Il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et toi, Pierre, le grand apôtre, eh bien, toi aussi, tu dois renoncer à ta façon de penser. Si ce que tu penses t'éloigne de la vérité, renonce-y. Voilà. Pourquoi Dieu dit que le méchant abandonne ses pensées? Vous connaissez ce texte? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des choses auxquelles qu'il faut abandonner. Je termine avec une pensée, pour que vous compreniez bien ce que Jésus enseigne. Quand il dit qu'il renonce à lui-même, quelqu'un qui pense qu'il est juste aux yeux de Dieu, ah ben moi je fais des bonnes œuvres, mais moi je donne de l'argent. Si tu savais tout ce que j'ai donné pour les bonnes œuvres, si quelqu'un ne renonce pas à sa propre justice, si quelqu'un ne renonce pas à sa façon de penser qu'il est juste et qu'il est digne devant Dieu, eh bien, il ira en enfer. C'est pour ça que ça vaut la peine de renoncer à sa façon de penser. En ce qui concerne le salut, il vaut mieux penser comme Dieu pense. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et quand Jésus dit, mais il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, eh oui, eh bien, mes frères et sœurs, aimons la parole de Dieu. Ne négocions pas la parole de Dieu. Il y a des choses, c'est vrai, c'est secondaire. Des fois, on parle des habits, on parle de ci, de là. Il y a des choses, c'est des opinions. Et ça, c'est pas grave. Mais quand c'est une question de salut, je crois qu'on ne discute pas. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, demandons au Seigneur cette grâce de respecter ce qui est écrit. Vous avez vu où on en est arrivé dans cette église apostolique au Canada? Enfin, ça fait quand même mal au cœur. Moi, je peux vous dire que si je devais voir le pasteur, ça irait mal. Croyez-moi, ça irait mal. Parce que je pense que c'est... On ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. Alors, mes frères et sœurs, ne vous focalisez pas sur le matériel. Si le matériel, vous en avez, parce que des gens disent, oui, cette personne... Une fois, il y a une dame qui me disait, oh, vous savez, cette dame, elle a une belle maison, ils ont une Mercedes, ils ont une piscine, est-ce que vous croyez que c'est spirituel? Je dis, ça n'a aucune importance. Moi, je préfère qu'ils aient une piscine, une Mercedes, et qu'on n'ait pas besoin de les aider, c'est bien. Et j'ai demandé à la personne, vous l'avez volé la Mercedes, vous l'avez volé la piscine? Non, on a travaillé avec mon mari, mais je dis, ben, c'est bien. Mais voyez comment les gens sont bêtes? Comment les gens sont bêtes? Mes frères et sœurs, le Seigneur ne met pas sur le spirituel, sur le matériel. C'est tant mieux si vous avez matériellement. Est-ce que c'est bien si matériel vous avez été béni? Mais tant mieux, c'est Dieu qui bénit. Si c'est un obstacle, faites attention. Mais veillons surtout sur nos pensées. Veillons sur nos pensées, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? On va prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Bon, je vous donne rendez-vous mardi soir. Je sais que ce n'est pas facile pour se garer, mais on va prier pour nos enfants. Vous êtes d'accord? Pour les besoins, s'il y a des besoins et que vous ne pouvez pas venir, faites connaître vos besoins. Et on va prier pour l'Église, pour que Dieu nous donne un local. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? On va se lever, on va terminer ensemble en demandant au Seigneur qu'il nous éclaire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous éclairer, mes frères et sœurs. Monsieur Blanc, s'il vous plaît, vous pouvez venir à ma place, terminer par la prière. Terminons ensemble en demandant au Seigneur cette grâce, vraiment cette grâce, mes frères et sœurs.